Lecture des lettres des pères du désert, une émission proposée par Hélène.
Nous poursuivons les lettres des pères du désert et nous entrons aujourd'hui dans l'œuvre magistrale de Jean Climac, l'échelle sainte, en souvenir de celle de Jacob. Jean Climac a vécu de 575 à 650, comme ermite au Sinaï, et après 40 ans de vie solitaire, il dirige le monastère comme higoumène. Voici les principaux échelons qui permettent à l'homme de s'élever progressivement par le Christ et de rejoindre le Père. Ce sont le renoncement, le détachement, l'exil volontaire, l'obéissance, la pénitence, la pensée de la mort, l'affliction qui produit la joie, l'absence de colère et la douceur, la chasteté, la veille corporelle, le discernement des pensées, des passions et des vertus, le silence et le calme intérieur appelé l'ézikia, la prière, l'impassibilité, ce qui veut dire que possédé par le désir de Dieu, l'homme est détaché des désirs du monde. Et enfin, la foi, l'espérance et la plus grande de toutes, la charité.
Nous sommes entretenus la dernière fois avec Saint Jean Climac au sujet de l'ézikia. Aujourd'hui, ce sera de la prière, la foi, l'espérance et la charité, les trois grandes vertus théologales.
De la prière, de la sainte et bienheureuse prière, mère des vertus, et de l'attitude de l'esprit et du corps durant celle-ci. La prière est, quant à sa nature, la conversation et l'union de l'homme avec Dieu, et quant à son efficacité, la conservation du monde et sa réconciliation avec Dieu. La mère, aussi bien que la fille des larmes, la propitiation pour les péchés, un pont élevé par-dessus les tentations, un rempart contre les tribulations, l'extinction des guerres, l'œuvre des anges, la nourriture de tous les êtres incorporels, la joie future, l'activité qui ne cesse jamais, la source des grâces, le pourvoyeur des charismes, un progrès invisible, l'aliment de l'âme, l'illumination de l'esprit, la hache qui retranche le désespoir, la preuve que nous avons l'espérance, le bannissement de la tristesse, la richesse des moines, le trésor des ézikastes, la réduction de la colère, le miroir du progrès, la manifestation de notre mesure, le test de l'état de notre âme, la révélation des choses futures, la sûre annonce de la gloire. Pour celui qui prie vraiment, la prière est la cour de justice, la salle du jugement et le tribunal du Seigneur avant le jugement futur. Levons-nous et écoutons ce que nous crie à haute voix cette sainte reine de toutes les vertus. Venez à moi, vous tous qui peinez, éployés sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Prenez sur vous mon joug, et vous trouverez le repos pour vos âmes et la guérison de vos blessures, car mon joug est doux, et il est un remède souverain pour les grands péchés. Si nous voulons nous tenir devant notre roi et notre Dieu, et converser avec lui, il ne faut pas nous mettre en route sans préparation, de peur que nous apercevant de loin, démunis des armes et des vêtements convenables à ceux qui se tiennent en présence du roi, il n'ordonne à ses serviteurs et à ses esclaves de nous charger de chaînes, de nous chasser loin de sa présence et de déchirer nos requêtes pour nous les jeter au visage. Quand tu vas te présenter devant le Seigneur, que la tunique de ton âme soit tout entière tissée avec le fil de l'absence de rancune. Autrement, tu ne tireras aucun profit de ta prière. Que le tissu de ta prière soit d'une seule couleur. Le publicain et l'enfant prodigue furent réconciliés avec Dieu par une seule parole. Quand tu pries, ne recherche pas de mots compliqués, car le bégaiement simple et sans variété des enfants a souvent touché leur Père des cieux. Ne cherche pas à beaucoup parler quand tu pries, de peur que ton esprit ne se distrait à chercher des mots. Un seul mot du publicain apaisa Dieu, et un seul cri de foi sauva le larron. La loquacité dans la prière disperse souvent l'esprit et le remplit d'images, alors que la répétition d'une même parole, ordinairement, le recueille. Si une parole de ta prière te remplit de douceur ou de componction, demeure sur elle, car alors notre ange gardien est là, priant avec nous. L'huile et le sel assaisonnent la nourriture. La tempérance et les larmes donnent des ailes à la prière. Le commencement de la prière consiste à repousser par une seule parole les pensées au moment même où elles se présentent. L'état intermédiaire de la prière consiste à maintenir notre pensée dans ce que nous disons ou pensons. Et sa perfection, c'est le ravissement dans le Seigneur. Tant que nous sommes encore en prison, écoutons celui qui parla ainsi à Pierre. Mets la ceinture de l'obéissance. Rejette tes propres volontés, et ainsi dépouillé, approche-toi du Seigneur dans la prière, n'implorant que sa seule volonté. Alors tu recevras Dieu, qui tient le gouvernail de ton âme et te conduit sûrement. Ressuscité de l'amour du monde et des plaisirs, écarte les soucis, dépouille ta pensée, renonce à ton corps. La prière, en effet, n'est rien d'autre que l'oubli du monde visible et invisible. Qu'ai-je au ciel en effet? Rien. Et qu'ai-je désiré sur la terre en dehors de toi? Rien d'autre que de m'attacher continuellement à toi, dans une prière sans distraction. Les uns désirent la richesse, d'autres la gloire et d'autres de grands biens. Mais mon désir est de m'attacher à Dieu, et en lui seul j'ai placé l'espérance de l'impassibilité de mon âme. Prépare-toi par une prière incessante de l'âme au moment que tu consacres à la prière et tu feras de rapides progrès. J'en ai vu qui brillaient par leur obéissance et qui s'efforçaient autant qu'ils le pouvaient de garder en leur intelligence la pensée de Dieu. Au moment de la prière, ils pouvaient aussitôt recueillir leur esprit et répandaient des torrents de larmes parce qu'ils y étaient préparés d'avance par la sainte obéissance. Celui qui a trouvé le Seigneur ne se proposera plus de but dans sa prière, car alors l'Esprit lui-même intercède pour lui dans son cœur avec des gémissements ineffables. Durant la prière, n'admet aucune imagination sensible, de peur de tomber dans l'égarement. Quand le feu vient résider dans le cœur, il ressuscite la prière. Et quand celle-ci se sera réveillée et sera montée au ciel, il se fera une descente du feu dans le cénacle de l'âme. Autre chose est de veiller assidûment sur son cœur et autre chose de placer ce cœur sous la surveillance de l'intellect, ce gouverneur et ce grand prêtre qui offre au Christ des sacrifices spirituels. C'est un seul et même feu qui est appelé tout ensemble feu qui consume et lumière qui illumine. C'est pourquoi certains sortent de la prière comme s'ils sortaient d'une fournaise ardente et ressentent comme l'allègement de quelques souillures et de tout ce qui est matériel, tandis que les autres sont tout resplendissants de lumière et revêtus du double manteau, de l'humilité et de l'exultation. Un roi de la terre serait profondément mécontent de voir un homme qui se tient en sa présence détourner de lui son visage et s'entretenir avec les ennemis de son maître. De même, mérite l'aversion du Seigneur celui qui est à la prière et accueille des pensées impures au temps de la prière. N'emploie pas le temps de la prière à réfléchir à des choses nécessaires, ni même à des affaires d'ordre spirituel. Sinon, tu perdras la meilleure part. du lien de la suprême des vertus, c'est-à-dire de la charité, de l'espérance et de la foi. La charité, quant à sa nature, est une ressemblance avec Dieu, pour autant qu'il est possible aux mortels de lui ressembler. Quant à son activité, c'est une ivresse de l'âme. Quant à sa vertu propre, c'est la source de la foi, un abîme de patience, un océan d'humilité. La charité est avant tout le rejet de toute pensée d'inimitié, car la charité ne pense pas le mal. Celui qui aime vraiment se représente toujours le visage de l'être aimé et se plaît à l'embrasser dans son imagination. Un tel homme, même pendant son sommeil, ne peut trouver aucune relâche à son désir et continue encore à s'occuper de l'être aimé. Il en est ainsi habituellement, aussi bien pour les réalités corporelles que pour celles qui sont incorporelles. Un homme blessé d'amour disait à propos de lui-même, et j'admirais ses paroles, « Je dors parce que la nature l'exige, mais mon cœur veille à cause de la grandeur de mon amour. » Remarque-le, frère vénérable, l'âme, comme le cerf, après avoir détruit les serpents, se consume de désirs et languit après le Seigneur, blessé par le feu de la charité, comme par une flèche. L'effet de la faim est quelque chose de latent et d'imprécis, mais l'effet de la soif est intense et évident et montre à tous l'ardeur qui nous brûle. C'est pourquoi celui qui désire Dieu s'écrie « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu fort et vivant. » Quand la crainte se fait sentir à l'intime de l'âme, elle détruit et dévore toute impureté, car il est dit « Transperce ma chair de ta crainte. » La sainte charité, elle, consume certains selon cette parole « Tu as pris mon cœur. » Elle en remplit parfois d'autres d'allégresse et de lumière, comme il est dit « En lui mon cœur a espéré et j'ai reçu aide, même ma chair a refleuri. » Et encore, un cœur joyeux fait resplendir le visage. C'est pourquoi quand un homme est tout entier mêlé à la charité divine, même l'aspect extérieur de son corps, comme une sorte de miroir, reflète la splendeur de son âme. C'est ainsi que fut glorifié Moïse, favorisé de la vision de Dieu. Ceux qui sont parvenus à ce degré, qui les rend semblables aux anges, oublient souvent la nourriture du corps. Je pense que souvent, ils n'en éprouvent même pas le désir. À cela, rien d'étonnant, puisque fréquemment, la pensée de la nourriture est chassée par un désir plus fort qui s'oppose à elle. Je pense que le corps de ces hommes incorruptibles n'est plus même sujet aux maladies ordinaires. Il est comme devenu incorruptible. Il est désormais purifié par la flamme de la chasteté qui a éteint l'autre flamme. Je pense qu'ils reçoivent, même sans aucun plaisir, la nourriture qu'on leur présente, car un feu céleste nourrit leurs âmes comme l'eau souterraine les racines d'une plante. L'augmentation de la crainte est le commencement de la charité, et la pureté parfaite est le fondement de la théologie. Celui qui a parfaitement uni à Dieu sa sensibilité profonde est initié par lui au mystère de ses paroles. Mais sans cette union, il est difficile de parler de Dieu. La parole implantée en vous parfait la chasteté et tue la mort par sa présence. Et quand la mort est morte, le disciple de la théologie est illuminé. La parole du Seigneur, qui nous est donnée par le Père du Seigneur, est chaste et demeure éternellement. Mais celui qui ne connaît pas Dieu ne parle que par conjecture. La chasteté rend son disciple théologien, capable de saisir les dogmes de la Trinité. Celui qui aime le Seigneur a commencé par aimer son frère, car ce second amour est la preuve du premier. L'espérance est un trésor que l'on possède déjà avant l'autre trésor. Un moine plein d'espérance est le meurtrier de l'ascédie qu'il repousse armé de ce glaive. La charité procure le don de prophétie. Elle accorde le don des miracles. C'est un abîme d'illumination, une source de feu. Plus elle jaillit, plus elle brûle celui qui a soif. La charité est l'état des anges. La charité est un progrès éternel. Dis-nous, ô la plus belle des vertus, où tu mènes paître ton troupeau, où tu te reposes à midi. Éclaire-nous, désaltère-nous, guide-nous. Prends-nous par la main, puisque nous voulons désormais monter jusqu'à toi, car tu règnes sur toutes choses. Et maintenant, tu as ravi mon âme. Je ne peux plus contenir ta flamme. Aussi vais-je poursuivre en te chantant. Tu domines la puissance de la mer, tu apaises l'agitation de ses flots et la mets à mort. Tu as humilié l'orgueilleux, tel un blessé. Par le bras de ta puissance, tu as dispersé tes ennemis et tu as rendu invincibles tes amants. Mais je désire vivement savoir comment Jacob te vit appuyé sur l'échelle. Satisfais mon désir. Dis-moi comment se fait une telle ascension. Ô mon amant, me dit-elle, si tu ne te libères pas de la matière terrestre, tu ne pourras pas connaître ma beauté. Puisse cette échelle t'apprendre l'enchaînement spirituel des vertus. À son sommet, je me suis établi moi-même, comme l'a dit mon grand initié. Maintenant demeurent ces trois vertus, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande est la charité.
C'était les lectures des Pères du désert, une émission proposée par Hélène. À son prochain rendez-vous, elle abordera les très belles lectures et lettres du Staretz Silouane.